La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous présente une cassette OB.
Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Lumière, l'intégrale. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Comme d'habitude, avant de commencer mon émission, je vais vous donner quelques idées que j'ai eues durant cette période où j'ai préparé mon émission. Alors cette fois, ce sera un peu particulier. Comme j'avais un mini-disque, j'ai dit des idées comme ça, sur le, en parlant sur le mini-disque. Quelquefois le son n'est pas très bon. Je crois que ce sera peut-être la dernière fois que je vais me lancer dans cette chose parce que le son n'est pas formidable. Voilà, je viens d'apprendre, c'est que Sony décide d'arrêter les mini-disques. Moi qui me suis mis au mini-disque, parce que les cassettes étaient ringardes et j'avais peur qu'elles s'arrêtent. Alors pour me mettre au mini-disque, j'ai été obligé, pour préférer mes émissions, c'est de copier en mini-disque plus de 100 cassettes de bruit et de musique. Ensuite, j'ai enregistré en mini-disque plus de 1000 cassettes que j'ai enregistrées. 1000 cassettes, ça représente 1000 heures, mais pour faire 1000 heures, il faut multiplier par 5, ça fait 5000 heures de travail. Et maintenant, le mini-disque va s'arrêter. Il n'y aura plus d'appareil pour lire les mini-disques. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je n'en sais rien. Si il faut encore que je recopie tout ce que j'ai fait en mini-disque, c'est-à-dire plus de 1000 mini-disques, je ne sais pas combien, c'est énorme, que je les mette sur un nouveau support, je ne m'en vois pas le courage. J'ai mieux tout arrêter. C'est de la folie tout ça, et c'est même du vol. Et si en plus, il faut tous les 5 ans changer de support parce que les supports changent, il y en a marre de cette histoire. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On prend les consommateurs pour qui? On prend les gens pour qui? Il faut changer tous les 5 ans d'appareil? Mais c'est pas possible ça. Moi, mes appareils mini-disque, j'en ai 5 appareils mini-disque de 8000 francs chacun. Vous vous rendez compte du prix que ça fait? Sans compter un mini-disque portable de je crois qu'il coûte 2500 francs, je ne sais pas, je me souviens plus exactement, sans compter ma chaîne où il y a un mini-disque dessus aussi. Alors, tout ça, ça ne servira à rien, ça va être mort. J'ai un mini-disque qui est en panne, un appareil mini-disque de 8000 francs qui est en panne, ils ne me l'ont pas réparé, ils n'ont rien fait du tout. C'est fini. Un mini-disque de 8000 francs qui a moins de 10 ans, et ben c'est foutu. Et hop, c'est fini. Il a peut-être 6 ans l'appareil, mais non, c'est fini. Allez, hop, on n'en parle plus. C'est tout comme ça maintenant. Pour ce qui est de la vidéo aussi, c'est pareil. Le VHS, c'est fini. Alors, au cours des années, j'ai plus de 100 films VHS. Et bien, ces films VHS, bientôt, je ne pourrai plus les voir. Ça finit, parce que mon appareil VHS, un jour ou l'autre, il va tomber en panne, parce qu'il y a plus de 10 ans, et il ne pourra pas être réparé, il sera fini. Les DVD, et bien, les DVD, on va passer à la haute définition, maintenant. Alors, bientôt, les appareils DVD que l'on aura achetés, et bien, dans quelques années, ils ne vaudront plus rien. Et même les DVD, les films que nous aurons, ils ne vaudront plus rien non plus. Il n'y aura plus d'appareil ni pour les lire, pour rien. Ça finit. Mais où va-t-on? C'est incroyable, ça. C'est de la folie. C'est du vol. C'est incroyable, ça. J'ai décidé, c'est de téléphoner à Sony pour leur expliquer ça, parce que ça ne va pas du tout. Ils m'ont déjà foutu en l'air un appareil d'effets spéciaux de 50 000 francs. 50 000 francs, il y a 10 ans, ça. L'appareil, au bout de 7 ans, il est tombé en panne. Ils l'ont gardé sur Sony Pro pendant 3 ans. J'ai eu le culot de leur demander ce qu'était devenu mon appareil. Ils m'ont envoyé une lettre à la limite de la politesse pour me dire pourquoi mon appareil ne pouvait pas être réparé. Un appareil de 50 000 francs. Il m'a dit parce que l'appareil était trop vieux. Faut pas exagérer, c'est du vol, ça. Au bout de 7 ans, il est trop vieux, l'appareil. C'est pas croyable, ça. Au bout de 7 ans. Non, mais oh, ça ne va pas. Normalement, ils doivent
Et ça, c'est la loi qui le dit. C'est qu'ils doivent garder, ils doivent avoir des pièces de rechange, quel que soit l'appareil, que ce soit une voiture, que ce soit n'importe quoi, une machine à laver ou ce que vous voulez. Ils doivent avoir un stock de pièces de rechange pour 10 ans. 10 ans. Maintenant, ils n'ont pas de pièces de rechange, ils n'en font pas. Ils se mettent hors la loi, c'est pas possible ça. Ils se foutent du monde. Alors moi, j'en ai assez, je sais plus ce qu'il faut faire, je me vois pas le courage de recommencer tout ce que j'ai fait. J'ai bien envie de tout abandonner, mes histoires et tout, parce que j'en ai ras-le-bol de tout ça. D'abord parce que ça me coûte très très cher, et puis en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer sur quoi? Sur quel support? Et puis attention, c'est que même les ordinateurs et les disques durs, eh ben, il y aura certainement un con qui va s'amuser à trouver quelque chose d'encore plus performant en disque dur et en ordinateur, et ce qui fait que tout ce qu'on aura fait en disque dur, eh ben, il faudra y refaire parce que ça ne vaudra rien du tout, etc., etc.
J'ai oublié de vous dire, c'est que l'enregistrement, je l'ai commencé le 1er janvier 2006 et j'ai commencé à écrire mon histoire le 21 août 2005. Là, nous allons continuer à écouter ce que j'ai eu comme ennui. Voilà. Je suis en train de regarder Excalibur, un très très beau film américain de Borman. Malheureusement, il s'est complètement foutu dedans parce qu'il n'a absolument pas compris ce que c'était que le Graal. D'après lui, le Graal, c'est le roi Arthur, ce qui est tout à fait faux. Le Graal, c'est l'absolu. Ce n'est pas la recherche du Graal, c'est l'absolu, ce n'est pas le roi Arthur. C'est bien dommage parce que le film est formidable, il est vraiment très très beau. Je suis en train de le voir et je le trouve extraordinaire. Je suis en train de lire un livre. Je suis en train de lire un livre de Monterland qui s'appelle Le Songe. C'est un vieux livre de Monterland qui s'appelle Le Songe que j'avais dans ma bibliothèque. C'est un livre étrange parce que, comment dire, le titre va bien avec ce qu'il raconte. En réalité, c'est pas le héros, il ne vit pas la guerre, il la rêve. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que il n'est pas, comment dire, s'il est soi-disant un officier, mais il n'a jamais d'homme à commander. Soi-disant qu'il se bat, mais on ne le voit jamais se battre. On a plutôt l'impression qu'il rêve, qu'il s'est battu. Tout est étrange. Il vit à l'intérieur du champ de bataille et en même temps en dehors du champ de bataille. Il est toujours en dehors de tout. Il vit vraiment comme dans un rêve. C'est vraiment un livre étrange. D'ailleurs, on se demande bien si c'est l'auteur, Monterland, qui a eu des difficultés à décrire des scènes de guerre, ou s'il a vraiment voulu que son livre soit comme ça. Parce qu'on sent tout de même qu'il y a des hésitations, il y a des difficultés à décrire certaines choses. Alors, je ne sais pas. Et puis, les rapports qu'a le héros Alban avec les femmes, on sent vraiment tout à fait son... Enfin, plutôt,
son homosexualité, parce qu'il recherche à la fin, il recherche sur des femmes leur côté viril, et il trouve le côté féminin chez les hommes. Il se sent plus attiré. On sent qu'il se sent plus attiré par les hommes que par les femmes, par les jeunes hommes. D'ailleurs, je ne comprends pas que les gens, lorsque le livre a été édité et que les gens l'ont lu, ne se sont pas tout de suite rendus compte que cette virilité qu'a le livre, en réalité, cachait ce désir. C'est d'avoir des rapports avec des hommes et des jeunes hommes, et que Monterland, pour ainsi dire, se sentait mal à l'aise dans le monde féminin. Voilà. C'est même plus loin. Alors je suis le cours Lafayette pour aller jusqu'au quai du Rhône. Ensuite je vais aller jusqu'au quai de Saône, prendre le vieux Lyon et monter jusqu'à Fourvière. Il fait beau, mais malheureusement il y a un peu de vent et pour le son ce n'est pas très bon. À tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé dans le vieux Lyon. Je suis rue du Boeuf, au numéro 40. Je vais prendre des escaliers pour aller jusqu'à Fourvière. Il y a 249 marches, mais ce n'est pas que fatigant parce que les marches sont à bonne hauteur, sont ni trop basses ni trop hautes, ce qui fait que c'est très bien. Avant, cette montée était très très sale. Maintenant, c'est nettoyé assez régulièrement, donc ce n'est pas sale du tout. Il fait toujours un temps doux, frais. Il fait bon, il y a toujours un peu de vent. C'est pour ça que le son n'est pas bon. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu tout à l'heure. J'ai pu m'entendre parce que je crois que mes piles étaient en panne. Alors je verrai en rentrant chez moi pour savoir si ça a été enregistré ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, je vais vous le répéter comme ça, si vous ne l'avez pas entendu, vous le saurez. C'est que je sors de chez moi à 6h45, je vais faire ma promenade de 2 heures tous les jours, je vais de chez moi, c'est-à-dire rue Louis Blanc, jusqu'à plus loin que le cimetière de Yonax, à Fourvière. Alors j'ai suivi le cours Lafayette jusqu'au quai du Rhône. Ensuite, je suis allé au quai de Saône. Ensuite, le vieux Lyon, rue du Boeuf et les fameuses montées d'escalier. À tout à l'heure, lorsque je serai arrivé à la hauteur de Fourvière, en haut de Fourvière. Voilà, je suis en haut de Fourvière, j'ai fait mes 249 marches facilement. Alors maintenant, je suis devant le jardin du Rosaire. Jardin du Rosaire, a été créée par la commission de Fourvière entre 1857 et 1864 comme chemin de croix, puis comme chemin du rosaire, c'est-à-dire parcours jalonné de petites oratoires destinés à guider la récitation du chapelet. Ce jardin donne accès à l'esplanade de Fourvière, au parc archéologique gallo-romain. Son cheminement en lacet offre des points de vue sur la ville à travers bosquets, massifs, hortensias ou jardins de roses anciennes. Un rosaire contemporain a été créé au-dessus de la maison de Pauline Jaricot, fondatrice en 1822 de l'œuvre de la Protagation de la foi. Bon, la vue de la ville se fait de moins en moins parce que le jardin est de plus en plus touffu. Le jardin du Rosaire, j'adore ce jardin parce que c'est un jardin à l'ancienne qui est surtout fait pour la méditation, ni pour faire du sport, ni pour que les enfants puissent aller jouer. Il est extrêmement touffu. Il y a beaucoup, beaucoup de vieux arbres. Il y a des chemins qui montent en lacets, plusieurs chemins qui montent en lacets. Et on a vraiment l'impression que c'est de se trouver en dehors de Lyon. Les arbres sont magnifiques, ils sont très hauts, très touffus. Et leurs branches vont très bas. Ce qui fait que on a l'impression de se trouver loin de Lyon, parce qu'on ne voit pas Lyon. En plus de ça, le son de la ville, on l'entend moins que dans certains jardins. Je déteste, moi, les jardins modernes. Je déteste les squares modernes et le parc de la Tête d'Or aussi. Le parc de la Tête d'Or, je suis allé hier enregistrer des sons parce que j'avais besoin de sons pour mes émissions de parc de ville. Et malheureusement, on n'entendait que le bruit de la ville, même pas le bruit des animaux. Là, on entend le bruit des oiseaux. C'est vraiment bien. C'est calme. Quand vous y allez le matin, très tôt, il n'y a personne. Je souhaite que ce jardin reste secret, qu'il n'y ait pas des jeunes ploucs qui viennent tout abîmer. Il y a certains endroits du jardin, très peu d'endroits, il y en a un, deux, trois endroits qui sont faits comme des jardins avec des fleurs, comme un coin fleuri. C'est très très joli. Il est merveilleusement bien entretenu, mais il laisse vieillir le jardin. Il y a beaucoup beaucoup de lierre, beaucoup beaucoup de lierre. C'est magnifique. Là, si on ne veut pas monter à montée principale, on peut prendre des petits chemins de traverse ou monter avec aux escaliers. Je trouve ce jardin très très beau, magnifique. Il y a même une espèce de tunnel en demi-arc qu'on peut passer dessous et qui sert en même temps de chemin de croix parce qu'à terre il y a les différentes stations de chemin de croix. On trouve aussi un petit peu, de temps en temps, quelques vieilles ruines de vieilles fondations, de vieilles maisons. C'est magnifique. J'adore ce jardin. D'ailleurs, c'est dans ce jardin-là que j'ai tourné Les Illusionnistes, que j'ai tourné Le Jardin et que je tournerai certainement encore beaucoup d'autres émissions. Pour Les Illusionnistes, j'arrivais à peu près vers ces heures-là où il n'y a personne dans le jardin et ça me permettait de faire mon tournage tranquillement sans que personne ne me gêne. C'était vraiment, vraiment formidable. Très, très beau. Et puis, je sais pas, il y a un côté disons reposant. C'est vraiment le jardin pour la méditation. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé en haut de Fourvière, sur l'esplanade, à côté de la basilique. On peut dire que il y a une ville touristique, malheureusement. les sons, mais pour moi qui marche, c'est très bien. Maintenant, je vais aller direction le cimetière de Yonax. Je vais sortir de l'esplanade. Voilà. Alors, pour aller jusqu'au cimetière de Yonax, je vais prendre la passerelle des 80 qui va me mener presque en face du cimetière de Yonax. Voilà, je suis sur la passerelle des 80 qui a dessous une très très grande prairie, très jolie. Il y a aussi beaucoup d'arbres en dessous. On voit la Saône, les monts du Lyonnais, la Duchère, la Croix-Rousse. Voilà, je suis arrivé au cimetière de Yonax. Je suis un petit peu plus loin, longé plus loin une rue, une petite rue, et puis monté des escaliers pour aller dans un jardin où il y a les archives des hospices civils de Lyon. Ensuite, longé un petit peu plus loin et aller jusqu'à la hauteur du théâtre romain du Fourvière. Il y a sur le chemin ou au-dessus du théâtre de Fourvière une maison, une petite maison, fait un petit peu maison campagnarde, avec sur le devant un petit champ et entouré d'arbres. Il y a même dans le terrain une vieille fontaine qui marche à la main avec une grande poignée. Et c'est là où j'ai tourné La Lumière, enfin une partie du film La Lumière, c'était vraiment très bien parce qu'on se croyait vraiment en dehors de Lyon, on ne voyait absolument pas la ville. On se croyait vraiment en dehors de Lyon, la maison semblait abandonnée. Maintenant la maison est occupée, ils n'ont plus le droit, c'est de rentrer dans la propriété, et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé c'est pouvoir revisiter cet endroit qui m'avait beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Voilà, maintenant j'ai envie de m'en retourner chez moi. Que j'ai enregistré est bon, parce que j'ai l'impression que mon appareil a l'air de faire un peu n'importe quoi. Enfin, je verrai ça en rentrant chez moi, et je referai ma promenade jusqu'à Fourvière, que je fais tous les matins, pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, comment je la fais, si ça n'a pas été bon. Oh, en ce moment, j'ai absolument pas de morale, ça, pas du tout. J'ai l'impression que tout va mal. Et puis je suis anxieux parce que je viens de finir une émission qui s'appelle Les miroirs brisés, et ça ne va pas, ça ne m'a pas du tout plu ce que j'ai fait. Je suis déçu de ce que j'ai fait. Et puis j'aimerais c'est pouvoir faire avoir un autre sujet d'émission. Mais pour le moment, j'ai la tête vide. Ça va pas du tout. Et tant que j'ai pas trouvé un nouveau sujet d'émission, ça n'ira pas. Ou tant que j'ai pas trouvé de nouveau sujet d'émission, ou tant que je n'ai pas commencé une nouvelle vidéo. Il faut toujours que je fasse quelque chose parce que ça ne va pas, je suis anxieux, j'ai le cafard, ça ne va pas du tout. Enfin, faire quelque chose, c'est d'ailleurs quelque chose de créatif, parce que la vie ne m'intéresse absolument pas. Bon, maintenant je vais rentrer chez moi, là je suis rue Garibaldi, je rentre chez moi, rue Louis Blanc, et puis je m'en vais voir si il faut que je recommence tout ce que j'ai fait, parce que je ne sais pas ce qu'il y a eu avec l'appareil. À tout de suite. J'espère que ça marche maintenant. Oui, je suis toujours en train de lire Monterland et je me dis c'est que Monterland est un écrivain qu'on ne peut plus lire, qui n'intéresse plus personne à une autre époque, parce que c'est un écrivain d'une autre époque. Il a un style démodé, trop classique, et en plus de ça, toute son écriture vient d'une éducation que l'on n'a plus, c'est une éducation gréco-romaine très classique dans son style, dans sa façon de voir les choses, c'est tout à fait, il a tout à fait, on sent vraiment l'éducation gréco-romaine, alors que les jeunes à notre époque ont plutôt une éducation américano-africaine. C'est pour ça que Monterland paraît démodé. Monterland d'ailleurs, comme beaucoup d'auteurs de son époque qui avaient cette éducation gréco-romaine, très gréco-romaine et catholique aussi, très forte, même catholique même si on ne croyait pas en Dieu, qui était très très forte et qui ça se voyait dans leur style, dans leur façon d'écrire, qui avait une écriture très classique, très très belle, que maintenant paraît démodée. Et les jeunes sont tellement habitués à la culture américano-africaine que pour eux, c'est tout à fait un monde qui leur paraît étranger. Je souhaite une chose. Hier, un grand bouleversement. J'en ai assez de cette vie, de cette grande médiocrité qui nous entoure. Ce grand bouleversement, cette chose, une espèce de révolution qui pourrait montrer, faire sortir les hommes qui sont au-dessus des autres. Puis ça permettrait aussi aux jeunes. Ça leur permettrait de connaître mieux la vie, ça leur apprendrait à vivre. Parce qu'en ce moment, ils n'apprennent pas à vivre, ce ne sont que des enfants gâtés. J'ai l'impression que ce serait une bonne chose, une bonne révolution, un bon point dans cette vie médiocre et stupide où tout est bloqué, où on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Si on lève à peine le petit doigt, le gouvernement nous saute dessus. Nous avons des tas d'impôts à payer. Nous avons de plus en plus d'impôts à payer. Nous ne pouvons rien faire sans que l'on soit, sans qu'on nous enfonce dessus, sans qu'on nous fonce dessus. Nous sommes bloqués. Plus rien, nous ne pouvons pas avancer. Donc, il faudrait c'est tout débloquer ça, et pour débloquer tout ça, et bien, il faut faire exploser toutes ces choses, tout ce qui nous entoure. Et peut-être est-ce qu'il y aura un renouveau, des hommes nouveaux, des gens, des hommes nouveaux qui sortiraient de cette masse médiocre où nous sommes. ce serait une bonne chose. Ça permettra aux jeunes d'apprendre à vivre, de ne pas être que des consommateurs, de devenir enfin des hommes, parce qu'en ce moment, ils ne sont pas des hommes, ce sont que des consommateurs. De Gaulle, lorsque Cocteau a décédé, a eu beaucoup de peine, a été énormément peiné lorsqu'il a décédé. Lorsque Monterland s'est présenté à l'Académie française, il a accepté qu'il se présente à l'Académie française malgré ses goûts. Et Monterland, lorsque De Gaulle a reçu Monterland, il a fait une petite boutade là-dessus, gentille. Cela prouve que De Gaulle, était plus humain qu'on le croyait et acceptait les faiblesses des êtres. D'ailleurs, comme De Gaulle était un militaire, comme beaucoup de militaires, comme par exemple de Napoléon aussi, ce sont des gens qui acceptent plus facilement les faiblesses des hommes, certaines faiblesses des hommes que les autres. De Gaulle a refusé c'est de recevoir Mauriac. Mauriac, cette espèce de puritain qui a été extrêmement méchant pour Cocteau, parce que lorsque Cocteau est mort, il a dit des choses vraiment ignobles sur lui. Et là aussi, ça démontre la grande humanité de Gaulle, de ne pas avoir accepté Mauriac. J'ai vu ce matin, passant devant la prie martiale Saint-Jean, des groupes de jeunes qui allaient prier, c'est pour l'histoire pour le pèlerinage jeune qui se passe en Allemagne. Il y avait une équipe de sécurité. L'équipe de sécurité était marquée sur leur t-shirt Sécurité Zeus. Alors ça a bien fait rire. Zeus, le roi antique arien, le roi grec arien de la religion grecque, qui est le père des dieux, qui est d'une religion qui n'est absolument pas monothéiste, s'occupe de la sécurité des jeunes catholiques qui, eux, croient un dieu monothéiste. C'est incroyable. Où les gens sont tout à fait... On vit un monde où tout le monde est tout à fait ignorant et ne connaît plus rien et fait n'importe quoi. Ou alors, je ne sais pas. C'est vraiment impensable. Pour beaucoup de choses, il y a des choses qui ont vraiment des non-sens. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la religion antique. Parce que je trouve que cette religion a des histoires vraiment très belles, où les dieux, par amour, se transforment en fontaine, en fleurs, en animal, etc., etc. C'est vraiment très très beau. Mais et je respecte les gens qui, à cette époque-là, croyaient en cette religion, parce que c'était leur religion à eux, puis c'était une très très belle religion. D'ailleurs, il y a des choses qui étaient vraiment très très jolies, comme ce Narcisse qui est transformé en fleur, Apollon, tout ça, c'est vraiment très très beau. Et puis, ce qui était vraiment bien aussi, c'était que Zeus avait une vie de famille dans son Olympe. Il était tout le temps embêté par sa femme qui était une véritable marâtre, par ses filles insupportables, de vraies chippies. Alors il était obligé, c'était de s'isoler un petit peu de tout ça. Mais lui aussi avait des maîtresses et tout. Et puis il y a aussi les demi-dieux comme Achille. Achille qui est né de d'une dont sa mère est une déesse, c'est-à-dire une immortelle, qui met au monde un enfant dont elle sait que cet enfant mourra. Pour elle, c'est quelque chose de terrible, de très d'horrible pour elle, de savoir qu'elle va vivre éternellement, que son fils mourra, et mourra en plus de ça très jeune, d'une façon tragique. Et le fils aussi, Achille, sait qu'il mourra très jeune, d'une façon tragique. Et mais la mère, pour le consoler, lui dit que ses espoirs, sa vie, resteront immortels, parce qu'on en parlera comme toujours. Ça restera des modèles, ça restera toujours. L'humanité pensera toujours à ce qu'il a fait, Achille. Et qu'avant de mourir, il fera des espoirs extraordinaires. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, c'est mon dernier jour de vacances. Demain matin, je vais commencer à travailler. Nous sommes le 15 août. Je vais en profiter pour me reposer un peu. Je suis en train de finir mon dernier livre que j'ai commencé à finir. C'est le Troupeau sans berger de Léon Savary. Alors cette année, pendant les vacances, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lu une biographie de Montgomery Cliff. J'ai lu Les Grandes Espérances de Dickens, un livre biographique des frères Lumière. J'ai lu Le Songe de Monterland, Les Jeunes Filles de Monterland, Les Lépreuses, Les Démons du Bien. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Bon, j'ai lu Le Songe, je crois que je vous l'ai dit. Le Troupeau sans berger. Voilà, c'est tout. Pour ce qui est des livres, des films, là j'en ai vu pas mal. De nombreux films. Très très nombreux films. En vidéo. Dont, bien entendu, Excalibur, qui est un film prodigieux. Très grande beauté. Très très beau. Et j'ai vu je ne me souviens plus, je regarde un petit peu. Ah oui, j'ai vu Main Trouble, qui est pas mal. J'ai vu Enigham, Enigma, qui est un film d'espionnage, c'était très bien fait. Puis j'ai vu un film alors formidable, un film sur la mafia russe en Amérique, qui est vraiment formidable. C'est Little Odessa, L-I-2-T-L-E et O-D-E-2-S-A. Alors là, c'est vraiment un film extraordinaire, d'une très grande beauté. J'ai vu aussi l'Odyssée d'Homère, plus bien d'autres films qui m'ont plu aussi, mais le film que sur la mafia russe est vraiment extraordinaire, hein, très très beau. Voilà, j'ai vu tout ça. Et voilà, ça c'est pour mes vacances. Mes vacances aussi, ça a été 800 pages d'écriture. J'ai enregistré 34 heures d'émission en VHS et en mini-disque. Je me suis promené tous les jours, en faisant 3 heures de marche chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait J'en ai fait pas mal de choses. Hein. J'ai fait pas mal de choses. Voilà, maintenant les vacances sont finies et je vais reprendre malheureusement ma vie de travail. Ça m'attriste un peu, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il faut bien travailler, malheureusement. Alors demain, ça va être chouette. J'ai commencé à travailler. Si un jour il m'arrivait quelque chose, je ne sais pas, un accident, peut-être même une mort, ce sera peut-être dû à une chose que j'ai mis dans mes œuvres que j'aurais pas dû dire. Une chose que j'ai su, que j'ai dévoilée comme ça et que je n'aurais pas dû dire. Et pour punir, peut-être. Voilà. Au revoir. Voilà, j'ai lu deux livres. C'est bon, bon. J'ai lu deux livres. J'ai lu L'Agneau de François Mauriac, qui est un livre, disons, plus ou moins bien réussi. Le sujet, le thème est bien, mais le développement est. Enfin, il manque de profondeur. Peut-être François Mauriac est trop raide. Comme on dit. Il ne sait pas se dévêtir. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre dans un train un homme qu'il connaît un peu, et cet homme veut qu'il le raccompagne chez lui pour qu'il puisse faire connaissance de sa femme. Et enfin, il se passe des tas de choses entre ces trois personnes et un enfant. L'histoire est pas mal et bien faite, mais comme je dis, c'est trop dur, c'est trop raide. Je viens de lire de Guy de Maupassant, Une vie. Alors là, c'est autre chose. C'est vraiment une belle leçon de vie. C'est l'histoire d'une jeune fille du 19e siècle. Et cette jeune fille qui sort du couvent apprend la vie et on suit cette jeune fille tout le long de sa vie. C'est vraiment très très beau, très formidable. Vraiment une belle leçon de vie. Et je trouve que ce genre de livre devrait être lu par tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles. Ça permettrait de voir comment vivaient les gens à cette époque-là et la façon dont on les éduquait. La fin, c'est la vie, voyez-vous, ce n'est jamais ni bon ni si mauvais qu'on croit. Et je trouve que c'est formidable, c'est ce livre. Il est vraiment très beau. Une vie de Guy de Maupassant. Il y a eu un film qui a adapté ce livre. Le film est très beau. Il date des années 60, il me semble. On l'a quasiment pas vu et c'est bien dommage parce que c'est un très joli film. Bien entendu, pas aussi puissant que le livre, parce que le livre va au-delà du film, mais il aurait fallu peut-être le double d'or pour pouvoir adapter tout ça, parce que il se passe beaucoup de choses. Mais c'est un très très beau livre. Il démontre l'innocence des jeunes filles qui sortent de leur couvent. Il montre la méchanceté des gens, la religion, tout ça, c'est vraiment bien fait. Bon, j'espère que l'appareil marche. Oui, je disais, alors que la SACEM dit que les disques jockeys sont c'est la création ce qu'ils font, alors qu'ils font que de mixer des œuvres qui leur appartiennent pas, et ils mettent des craquements à leurs œuvres et les font passer d'avant en arrière comme ça. Et moi, mes œuvres, c'est pas de la création. Tout de même, on exagère là. L'ASCAM veut juger une œuvre radiophonique que d'après les tests, que d'après un test. Mais une œuvre, une création, c'est un tout. C'est même les silences, c'est même les bruits qu'il y a entre les sons, entre la parole. Un film, c'est une œuvre à part entière, même lorsqu'il n'y a pas de dialogue, lorsqu'il n'y a pas de monologue, lorsqu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien de parlé. Alors pourquoi est-ce qu'une œuvre radiophonique ne serait pas la même chose? C'est incompréhensible, ça. En France, on est trop littéraire. On ne sait pas juger les œuvres d'après, en dehors de l'écrit. C'est une aberration. Une œuvre radiophonique est un tout comme un film. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La lumière, l'intégrale. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.